parents de Natacha Henry, l'invité de Sophie, était chercheur et spécialiste des Lebensborn, ces institutions racialistes, vous savez, destinées à reproduire une soi-disant race, ces soi-disant ariennes. Alors, grandir dans cette ambiance est-il synonyme d'angoisse? Pas spécialement, d'après Natacha Henry, qui s'est détachée de cet aspect intellectuel grâce à la liberté d'une enfance passée au contact de la nature.
J'ai grandi dans un hameau de Normandie, dans le département de l'Eure, et les paysages, c'était des vaches, des champs de céréales, du maïs et du colza, principalement, et des forêts qu'on connaissait par cœur, mon frère et moi, et on allait s'embarquer pendant des heures jusqu'à marcher vers la rivière. Et nous avons même trouvé la source de la rivière. On pouvait mettre son doigt dedans, il y avait du sable comme ça qui tourbillonnait et on sentait l'eau jaillir. Donc en fait, mon enfance a été, je ne sais pas si elle a été bucolique, mais elle a été rurale en tout cas. Donc je ne savais pas ce qu'était un feu rouge, je ne savais pas ce qu'était un grand immeuble, je ne savais rien de la pollution et autres joies urbaines.
Ça ressemble à un paysage idéal pour des enfants, ça.
C'était la campagne normande des années 70. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait que des fermes, en fait. Non, j'étais très contente. Franchement, ces années-là, on est parti quand j'avais 9 ans. Ces années-là, je n'ai jamais eu peur de rien.
Pour autant, vos parents n'étaient pas du tout des fermiers ou des agriculteurs, puisque vous êtes issu d'un couple d'intellectuels franco-britanniques. Votre père, je crois, était journaliste. Mais dans quelle mesure, Natacha Henry, avez-vous été imprégnée de l'ordre, ou devrais-je dire du désordre du monde?
Mes parents, Marc Hillel et Clarissa Henry, à l'époque où moi je récoltais des tritons dans la mare, ils étaient en train de faire un travail colossal qui a donné lieu ensuite à un livre qui s'appelle Au nom de la race. Ils étaient partis sur les traces des enfants nés dans les Lebensborn pendant la guerre organisée par le régime nazi. Ce qui fait qu'en fait, c'était un doux mélange. Nous, on était dehors en train de manger des violettes et de cueillir des pâquerettes et de monter à la corde parce qu'on avait installé un truc avec des anneaux, une corde et tout ça. Pendant ce temps, mes parents collaient à travers tout le salon des photos d'enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette petite blonde dont des nazis mesuraient la tête, ce petit garçon dans le ghetto de Varsovie, les bras en l'air. Enfin, il y avait toutes ces photos en noir et blanc collées sur les murs du salon parce que c'était leur bureau, en fait, et toutes ces archives et des journaux. Et puis, de temps en temps, ils partaient en Allemagne, on est en 1973, ils partaient en Allemagne, en Pologne, derrière le mur, et nous étions entre les mains d'une bonne, comme on appelait ça, normande, qui s'appelait Sylvie, qui avait un tablier à fleurs et qui gérait notre vie quotidienne pendant que les parents allaient prendre des risques extraordinaires à interviewer des vieux nazis pour savoir comment s'était passé les Lebensborn. Mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait une rupture entre le fait qu'on avait des poules, des canards et que ma mère faisait des confitures et le fait qu'ils étaient par ailleurs en train de traiter un cas extrêmement grave lié à la Seconde Guerre mondiale. Je trouvais que tout ça était très harmonieux et finalement, je le trouve encore. À l'époque, j'avais pas du tout pensé en figure féminine, en termes de figure féminine. À l'époque, je lisais, je me souviens très bien d'avoir lu Alcool d'Apollinaire, par exemple, et de m'être dit, ça c'est vraiment extraordinaire. Je lisais indifféremment des femmes et des hommes. Franchement, c'est étrange hein, de dire ça, mais je n'ai pas eu de modèle féminin supérieur à des modèles masculins en littérature.
J'ai eu Simone de Beauvoir.
Sur Simone de Beauvoir, j'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée quand j'avais 14 ans, et c'est vrai que ça a été une révélation. Je trouvais ça formidable. Mais vous savez ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est son lien avec sa copine Zaza. Franchement. Et le côté romantique de quand je rencontrais Sartre, je savais qu'il ne plus jamais sortirait de ma vie. Ça, c'était mon côté fleur bleue. Le côté intellectuel, moi, je l'avais déjà avec mes parents. Ils écrivaient des livres, ils parlaient que de ça toute la journée. À 20h, il fallait regarder les infos. Il y avait Europe 1 ou France Inter en boucle. C'était pas du tout... J'avais pas ce manque, moi. J'en pouvais plus des trucs intello à la maison. Il y avait que ça toute la journée. Ils parlaient que de ça toute la journée, mes parents. Personne disait si on faisait une tarte aux pommes. Ils parlaient juste de problèmes d'éditeurs, de contrats. Tiens, regarde la couverture du livre. Tiens, regarde Mitterrand ceci. Je veux dire, on n'était pas j'étais pas dans un manque intellectuel. Au contraire, j'aurais préféré qu'il le soit moins. J'aurais préféré qu'il parle un peu plus de si on faisait des tartes aux pommes et des fêtes d'anniversaire, plutôt que toujours l'omniprésence de l'actualité, l'omniprésence d'histoires d'éditeurs et de livres. Enfin, et finalement,
et ça vous a rattrapé.
Ça m'a. Je fais des tartes aux pommes quand même. Non, ça m'a. C'était pas un manque. Je sais qu'il y a des gens qui racontent qu'ils ont vécu dans des familles où il y avait rien de tout ça. Ils ont eu super envie de le faire. Mais moi, j'ai baigné dedans depuis que j'étais née. Donc ça ne m'a pas manqué. Ensuite, à l'école alsacienne à Henri IV, non plus. franchement. La seule chose qui était un peu embêtante au lycée Henri IV, c'est que j'avais l'impression qu'on allait nous mettre sur des rails. Ça m'embêtait beaucoup et c'est pour ça que j'ai refusé de faire une hippocagne et que je suis partie à la Sorbonne, à Paris IV, pour la liberté. Si j'avais une seule idée dans la tête depuis toujours, c'était cette histoire de liberté, que j'avais peut-être gagnée en Normandie à n'avoir aucune frontière, quoi.